Imaginez la scène que nous décrit abondamment l'évangéliste Luc. Jésus a souhaité se retirer à l'écart pour retrouver ses disciples qui reviennent de mission. Ils ont besoin de raconter, de se ressourcer et d'être au calme pour prier. Mais voilà, les choses ne se passent pas comme c'était prévu. Beaucoup de personnes, des foules, nous est-il dit, ont suivi Jésus de l'autre côté de la mer de Galilée et jusque dans un lieu désert. Environ 5000 hommes, même si le compte n'est pas exact, cela fait beaucoup de monde. On ne voit jamais cela dans nos temples le dimanche. Ces hommes et ces femmes, n'en doutons pas, ont suivi sans hésitation le maître, sans savoir où il risquait de les emmener et sans faire de provisions. Et dans ces collines, paysage magnifique mais désolé, nul abri, pas de siège, et encore moins de magasins où faire des achats de nourriture. Oui, il faut imaginer toute cette foule dispersée autour de Jésus, et probablement dans le silence, puisqu'il peut leur parler du royaume. Pas de bavardage, pas de téléphone portable à l'époque, un silence religieux, pourrait-on dire, avec le vent du lac de Tibériade qui porte les paroles du maître jusqu'au dernier rang. Ces 5000 hommes et femmes doivent également être disciplinés, car on peut amener jusqu'à lui toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'être guéris. Nous sommes loin de ces apéritifs géants qui dégénèrent en déprédation, en coma éthylique et qui entraînent des décès. Par rapport à ce récit, il faut noter en comparaison la discrétion du miracle. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes, et quand même 12 paniers avec les restes. Juste l'exposé des faits. Pas même d'étonnement, sur le coup, des disciples ou des participants. Comme si Luc, ou ceux qui lui ont raconté l'événement, avaient considéré que ça n'était pas le plus important. Mais alors, posons-nous la question, si ce n'est pas le miracle qui est le plus important, qu'est-ce qui intéresse Luc? On peut essayer de répondre en voyant 3 temps dans ce récit. Un premier temps au verset 11, l'accueil, l'annonce du royaume et les guérisons. Comme l'affirme l'évangéliste Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'évangile est là pour nous rappeler d'abord la primauté de la parole. Dans un monde de plus en plus matérialiste, on aurait tendance à l'oublier. Cette annonce du royaume, c'est celle de l'amour de Dieu pour ses créatures, quand Jésus-Christ il adopte comme ses enfants. Par la parole de pardon, il guérit ceux qui en ont besoin et qui viennent à lui. Ainsi peut-on se demander quel rapport à la lecture des actes de ce jour avec le récit de Luc. Quel rapport entre Philippe et les disciples qui doivent nourrir ceux qui sont venus écouter la bonne nouvelle. Voilà un fidèle disciple, Philippe, très occupé en plein désert. Un ange du Seigneur l'encourage à s'approcher du char d'un étranger. On connaît la suite. Il lui explique les paroles de Jésus, comment comprendre ce qu'ont écrit les témoins de sa vie. L'Éthiopien sera converti, baptisé, et ira répandre à son tour cette bonne nouvelle au-delà des frontières. Oui, l'annonce de la parole est indispensable, et c'est la mission de l'Église. Il y a un deuxième temps, au verset 13. Donnez-leur vous-même à manger et faites-les asseoir. La remarque des disciples était judicieuse et soucieuse des personnes rassemblées. Mais nous ne pouvons pas toujours nous tourner vers Dieu comme ils le font pour Jésus, afin qu'il agisse à notre place quand nous pouvons le faire nous-mêmes. C'est bien un deuxième temps. Jésus qui va s'absenter les prépare, et nous avec, à cette absence. C'est à nous de gérer ce temps d'éloignement avant son retour. Cette injonction claire nous envoie, comme ceux qui nous ont précédés, dans le service de nos prochains. Nous sommes dans le pratique et pas dans le virtuel. Nous ne sommes pas dans les jeux vidéo ou dans la télé-réalité. L'appel envoie à une action réelle et des indications nous sont données sur l'esprit dans lequel cela doit être fait. C'est l'objet du troisième temps, au verset 16. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ce troisième temps vient nous rappeler que ce que nous faisons pour nos frères et nos sœurs, ce n'est pas pour eux seulement, pour eux certes, mais avec lui. En effet, les disciples ont eu foi. Il n'y a que cinq pains et deux poissons. Là, le compte est facile. Mais avec confiance, ils ont quand même fait ranger les foules des 5000 hommes par équipe de 50. C'est la bénédiction qui change la situation. Nous devons nous rappeler cela quand nous pensons à quoi bon ? Que puis-je faire seul devant tant de nécessités ? Il y en a trop. Je n'en ai pas assez. Les chrétiens ne sont pas seuls à venir au secours des personnes dans le besoin. Mais leur spécificité, c'est de se lancer sur la seule force que leur donne l'Évangile. Après la parole, l'annonce de la bonne nouvelle qui est la première priorité pour l'Église, il faut savoir prendre soin aussi matériellement de ceux qui viennent. C'est aussi la mission des disciples du Christ et de l'Église qu'ils forment. Dans ce cas particulier, les nourrir, mais d'autres fois, les soigner, les aider à se loger, quelquefois les défendre contre les injustices et les persécutions. Donnez-leur à vous-même à manger rappelle le problème de la faim dans le monde, nous rappelle l'actualité de cette injonction. Il y a près d'un milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim. 24 000 personnes meurent chaque jour de cette faim, une toutes les 4 secondes. On peut s'en débarrasser en disant « c'est politique, ce n'est pas de mon ressort » ou encore « comment résoudre de tels problèmes à moi tout seul ? Je n'y peux rien. » C'est en quelque sorte la réaction première des disciples. « Renvoie la foule, » disent-ils. Mais à eux qui reviennent d'avoir annoncé l'Évangile, guéri des malades et chassé des démons, Jésus donne un enseignement nouveau. Donnez-leur vous-même à manger. Et il nous met ainsi devant nos responsabilités. Je crois que dans les crises que le monde entier traverse, il est inutile de rappeler le souci de l'autre. Donc les membres d'Église, comme tout humain, doivent se préoccuper de cela, et leurs églises aussi, bien sûr. Les églises, et en particulier les protestants, ont toujours été très actifs dans les œuvres. Hospices et hôpitaux, accueil des personnes diminuées, aide aux déplacés comme la CIMAD, association contre l'illettrisme, l'alcoolisme comme la Croix Bleue, contre la lèpre, Dr Schweitzer, Raoul Follereau, contre la dépendance aux drogues, la liste serait interminable. La Fédération de l'entraide protestante qui regroupe 360 institutions, œuvres et mouvements qui, dans tous les domaines, se consacrent à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Je voudrais vous lire ce que nous écrit le pasteur Gilles Pivot, qui était notre ancien pasteur, ancien, mais avec qui nous avons toujours des rapports. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller à la force c'est là la fondation Jeune Bosse qui s'occupe des personnes handicapées, moteurs et cérébrales. Je ne peux que vous encourager à faire le voyage vers ce lieu qui accueille plus de 1000 résidents, handicapés moteurs et cérébraux, grabataires, épileptiques, malades d'Alzheimer, etc. Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître. Telle était la devise de John Bost. 150 ans après, le personnel, les soignants, les bénévoles continuent de servir ces plus petits avec la même attention, le même respect et surtout le même regard posé sur un être humain, un frère ou une sœur en Christ. Participer au culte avec ces hommes et ces femmes qui pour certains ne parviennent qu'à crier lorsqu'on chante des cantiques, ou à s'agiter de la façon la plus désordonnée qui soit pendant les moments de prière, vous fait ressentir une émotion rare. Ça, c'était le texte de Gilles Pilloux. L'Église réformée utilise un mot un peu barbare, la diaconie, pour exprimer ce qui fait simplement partie du devoir de l'Église, le service. Cela comprend l'entraide, les visites, le secours aux plus faibles, tout ce qui peut être fait pour le proche ou le lointain au nom du Christ. Le service d'entraide de l'Église réformée d'Annecy, le CERA, est donc nécessaire et indispensable à la mission de notre Église locale. Le texte du jour vient en réponse à ceux qui se poseraient la question « À quoi sert le CERA ?» Le service d'entraide est la réponse pour nous à l'injonction de Jésus notre Seigneur « Faites-le vous-même ». Ainsi fonctionne avec le Secours catholique, par exemple, les repas partage pour les plus démunis. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes dons, sans parler des pasteurs, bien sûr. Certains, certaines, enseignent. C'est le jardin biblique que nous verrons tout à l'heure, l'école biblique, le cathé, le groupe des jeunes. Ce sont aussi les études bibliques. Certains, certaines, dirigent des cultes, prêchent, administrent des sacrements. Ils ont une visibilité qui ne fait pas question. Mais d'autres, moins visibles, organisent les visites des anciens, des malades, réunissent les plus âgés et les isolés, accompagnent ceux qui se déplacent difficilement, dirigent des repas pour les plus démunis et les laissés pour compte. Ils sont, pour nous, à l'écoute des demandes de secours. Ils ont une utilité qui ne fait pas question. Mais on oublie quelquefois, quand on lit le texte, que Jésus avait commencé par accueillir, annoncer le royaume et guérir. Le paradoxe serait de s'accrocher seulement à ses suppléances, certes indispensables, et d'oublier la vocation première d'annonce de l'Évangile. Ainsi, nous sommes appelés à lutter sur deux fronts sans en négliger aucun. Contre une Église repliée sur la seule annonce de l'Évangile, contre une Église uniquement noyée dans l'utilitaire ou le matériel. On pourrait dire que l'Église doit avancer sur ses deux jambes. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, nous est-il dit. Ainsi est-il nécessaire que les Églises et leurs membres ne restent pas uniquement fixés sur une seule partie de ce qui nous est demandé, annonce de l'Évangile ou entraide. Ainsi, il y a des tâches multiples, mais la même obéissance à l'Évangile. Et c'est tout cela ensemble qui fait l'Église. Avant ce passage, Jésus avait donc envoyé ses disciples en mission. Ils étaient venus rapporter leurs résultats. Il les envoie maintenant avec cette double responsabilité, ainsi que leur continuateur. On voit se dessiner l'Église dans l'absence-présence du Christ. Depuis que les apôtres ont été en mission, l'Église est en route. Jésus a confié ces deux tâches, annonce de la parole et service de l'humain, à tous ceux et toutes celles qui veulent le suivre. Les disciples, mais également tous ceux qui vont leur succéder, ne se substituent pas au Christ, mais vont transmettre sa personne, son message et l'œuvre à laquelle il nous appelle. Nous ne sommes pas tous des John Bost ou des docteurs Schweitzer. Disciples, nous avons déjà à faire autour de nous pour répondre à cet appel. Ainsi, ces trois temps nous parlent de trois choses. Ils affirment que l'annonce de l'amour de Dieu et son pardon d'une part, le service du prochain en son nom d'autre part, sont indissociables de la vie dans l'Évangile. Mais il nous est rappelé que la chose première est la parole divine. Seule cette parole, manifestée en Jésus-Christ, donne vie et sens à nos existences. Amen.